Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire. Présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Passé de quelques minutes sur Radion. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour un radio-archive, c'est-à-dire un wagon livre au cours duquel nous allons vous proposer en nouvelle diffusion des extraits d'entretiens que nous vous avons déjà offerts à l'antenne. Je voudrais aussi encore en ce tout début du mois de janvier 2021 vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année et partager avec vous ces deux vers du poète Paul Éluard que j'aime particulièrement et que je trouve tout à fait de circonstance. Je vous les livre tels quels. Le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf couvé. Bonne matinée, bonne fin de matinée à vous en notre compagnie. Nous allons ouvrir ce wagon livre avec Christophe Barbier, journaliste politique depuis 1990 au Point à Europe 1 puis à l'Express. Christophe Barbier est le fondateur de la compagnie Île de Rime, puis du théâtre de l'Archicube, troupe de l'association des anciens élèves de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. Et il a mis en scène et interprété une soixantaine de pièces et en a écrit trois. La guerre de l'Élysée n'aura pas lieu, disponible d'ailleurs chez Grasset en 2001. Une histoire de la comédie française avec Muriel Mayette en 2012. Et enfin, Les maths et moi en 2013. Je vous propose d'entendre Christophe Barbier que j'avais eu le plaisir d'interviewer au Salon du Livre d'Autun, la fête du Livre d'Autun. C'était en avril 2018. Christophe Barbier avait été invité notamment pour présenter son dictionnaire amoureux du théâtre paru aux éditions Plon. Car effectivement, Christophe Barbier a été foudroyé par la passion du théâtre. Il s'en explique dans l'interview que nous allons entendre et découvrir, redécouvrir avec vous.
Ah oui, j'ai découvert ça à 17 ans. J'étais en Haute-Savoie, je n'allais jamais au théâtre. Le premier théâtre était à plus de 100 km. Mais heureusement, je voyais du théâtre à la télé. Je voyais Popek à la télévision me dire du mal de sa femme et m'expliquer que dans le vivier de chez Maxime, les homards se battaient. Et je trouvais ça formidable de monter sur les planches. Et j'ai eu la chance de le faire dès l'âge de 17 ans. J'ai jamais arrêté depuis.
Alors dans quel registre étiez-vous le plus à l'aise? Dans le comique, dans le tragique?
Oh, dans le comique quand même. Parce que d'abord, quand on est amateur, le tragique est difficile à atteindre. Il faut connaître ses limites. Et puis partager des rires avec un public, c'est un bonheur sans pareil. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de revivre chaque fois qu'on a l'occasion de le croiser.
Christophe Barbier, je connais bien cette collection des dictionnaires amoureux. Vous avez écrit une somme. Vous trouvez le temps? Quand trouvez-vous le temps? Et combien d'années avez-vous passé à constituer ce corpus de A à Z, puisque c'est aussi c'est la règle du jeu?
C'est un travail de 3 ans, le dictionnaire amoureux, mais c'est pas un livre de 1100 pages, c'est 300 livres de 3 et quelques pages chacun. À chaque fois qu'on se plonge dans une notule, c'est une aventure différente. On va écrire la biographie de Beaumarchais, puis après on va parler de ce qu'est le brigadier, le bâton pour frapper les 3 coups, puis après on va faire le trou de mémoire, et puis on va retourner chez les Grecs. Et donc, c'est en permanence des petits extraits, des petits articles, donc on n'a pas l'impression d'escalader une montagne. Et on devient addict. On a envie tous les jours d'écrire ces 10 lignes, ces 20 lignes, ces 50 lignes. Ça devient comme une drogue. Donc on écrit dans le métro, on écrit le soir dans son lit, on écrit discrètement dans une réunion ennuyeuse quand on dirige une rédaction et qu'il y a des réunions un peu interminables. On profite de chaque instant pour pour avancer son dictionnaire amoureux petit à petit, et c'est un vrai bonheur.
Donc c'est une belle accoutumance. Alors cette année, on va commémorer le 70e anniversaire de la disparition de Antonin Artaud. Je ne sais plus, Christophe Berbier, si Antonin Artaud figure dans votre dictionnaire amoureux.
Ah bien sûr,
amoureux,
bien sûr, c'est fondamental.
Oui, je crois qu'il a révolutionné, enfin...
Tout à fait, c'est un théoricien incontournable du théâtre contemporain.
Pas toujours bien compris à son
époque. Qui, avec sa métaphore de la peste, du théâtre de la peste...
Et de la cruauté.
A créé quelque chose. Il disait, le théâtre de la cruauté a été créé pour ramener au théâtre la notion d'une vie passionnée et convulsive, pour l'arracher à son piétinement psychologique et humain. Donc il combattait tout ce théâtre de simple distraction.
C'est donc trop de décors, trop psychologique.
Trop de facilité, il fallait aller à l'essentiel. Et puis il a écrit ces phrases très fortes. Hein. Le théâtre, comme la peste, est fait pour vider collectivement des abcès. C'est quand même très fort.
Mais c'est le retour à la fonction cathartique du théâtre,
oui,
un petit peu
oui,
tel
oui.
que les Grecs
c'est
de l'Antiquité.
C'est une des fonctions du théâtre. Le théâtre n'a pas que cette fonction. Il est tout à fait honorable de faire du théâtre pour que les gens qui ont une journée difficile passent un bon moment. Mais l'une des fonctions du théâtre, c'est d'être cathartique. Donc il faut écrire des pièces sur l'actualité, il faut écrire des pièces sur ce qui ne va pas dans la société. C'est toujours là que le théâtre trouvera son utilité historique.
Christophe Babieux, je ne vais pas vous mobiliser trop longtemps parce que le public est là et je suis à votre stand. Et je vous remercie de prendre un peu de temps avec moi. Un auteur coup de cœur.
Oh, l'auteur de coup de cœur de mon adolescence, c'est Rostand. Rostand qui, à travers Cyrano, mais aussi à travers L'Aiglon, Chanteclerc, La Samaritaine, m'a transporté dans mes émois d'adolescent. Ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et si je devais citer un auteur coup de cœur contemporain, vivant, je trouve que Florian Zeller, qui a à peine 40 ans et qui a déjà toute une œuvre derrière lui, est sans doute l'auteur qui, dans les 15 dernières années, a le plus révolutionné la manière d'écrire le théâtre, de raconter une histoire avec des retours en arrière, en mélangeant les versions, le vrai, le faux, ce qu'on imagine, ce qu'on voit vraiment. Et là, il a vraiment apporté quelque chose de plus. C'est vraiment un jeune auteur particulièrement intéressant à suivre. Mais déjà, il y a d'autres formes de narration. Quand Alexis Michalik écrit des pièces avec des histoires comme on en racontait jadis au coin du feu, il montre bien que le théâtre porte toujours en lui sa propre vitalité.
Est-ce que la vie politique française est une forme de théâtre ?
Bien sûr. Il n'y aurait pas de théâtre sans politique. D'abord parce que les politiques ont aidé parfois le théâtre, Louis XIV avec Molière, mais la plupart du temps parce que la politique a fourni des sujets au théâtre. Il n'y a pas Shakespeare sans la politique. Il n'y a pas Victor Hugo sans la politique. Quand il écrit Le Roi s'amuse, il nous parle de François Ier, mais il nous parle surtout, bien entendu, de Louis-Philippe. Quand il fait Hernani, c'est pour critiquer la monarchie qui est chancelante et qui va donner la révolution de juillet 1830. Donc la politique a toujours été le carburant du théâtre.
Mais on a le sentiment quand même que le cinéma, qu'un film peut plus facilement faire scandale qu'une pièce de théâtre aujourd'hui. On a l'impression que le théâtre est un petit peu...
Oui et non.
Reste un petit peu élitiste.
Oui et non. Il peut y avoir des scandales. Quand Coltès écrit Roberto Succo sur un serial killer, il y a des villes où c'est interdit parce que ce tueur a fait des victimes dans la ville et les gens sont choqués. Quand Civitas, l'association catholique, vient jeter des pierres devant le théâtre du Rond-Point pour éviter les représentations d'une pièce qu'elle juge sacrilège, elle montre bien que le théâtre peut rester choquant. En 1966, c'est pas vieux, eh bien, on se battait à l'Odéon pour empêcher les paravents de Jean Genet qui faisaient du mal de l'armée. Parmi ceux qui se battaient contre la pièce, il y avait deux futurs ministres, Patrick Devedjian et Alain Madelin. La politique et le théâtre, la vie politique et le théâtre. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le cinéma, la télévision, mais on va voir revenir la politique comme sujet de pièce de théâtre.
C'était Christophe Barbier, journaliste politique, pour son dictionnaire amoureux du théâtre, toujours disponible en librairie aux éditions Plon. Christophe Barbier, qui dirige l'Express et qui est le fondateur de la compagnie Île de Rime, puis du théâtre de l'Archicube, la troupe de l'association des anciens élèves de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm. C'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion. Restez avec nous, nous marquons, si vous le voulez bien, une première pause musicale.
In and out, I see with you, sailing under the rain. The only color of my blues is made of dust and sand. Drifting. It's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you. The wind must send me home to you before the harvest starts again. And if the light comes shining through, will you still recall my name? drifting. It's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I found you. I've been here and almost everywhere. I sailed the seven seas while you sat down on your chair. You've been good to me, have I been good to you? Lost in the ends of gravity, soon I'll get back to blue. Drifting, it's every day the same. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time. Clouds pass me by, and I'm bound to take my time until I find you.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Petit moment de dépaysement si vous le voulez bien, puisque nous allons certes rester en Europe, mais nous allons nous rendre en Albanie grâce à un entretien enregistré lors de la fête du livre d'Autun en 2017 avec Laurent Jeannin. Laurent Jeannin signe un certain nombre de très beaux ouvrages de textes accompagnés de photographies en noir et blanc qu'il réalise lors de ses séjours à l'étranger. Il est ainsi allé dans différents pays, Afrique du Sud, Cuba, et en 2017, il présentait son nouvel opus. Il s'agissait effectivement d'un ouvrage intitulé « Repères », accompagné de photographies réalisées en Albanie au cours d'un séjour qui a duré 3 semaines. Et c'est l'occasion de mieux connaître ce pays mal connu, pays musulman à 70%. Et n'oublions pas que, paradoxalement, une des femmes les plus connues de l'Albanie, c'est une catholique, à savoir Mère Teresa. Je vous propose tout de suite de mieux comprendre les raisons qui poussent Laurent Jeannin à partir un peu homme aux semelles de vent dans les pays à l'étranger pour en ramener de beaux ouvrages avec des textes toujours pertinents et intelligents et des photographies en noir et blanc de très grande qualité. Tout de suite, Laurent Jeannin.
Donc justement, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aller en dehors des sentiers battus et de comprendre finalement quels peuvent être les nouveaux repères d'un pays comme celui-ci dans une économie un peu mondialisée. C'est un pays qui est candidat à l'intégration à l'Union européenne. Mais pour l'instant, sa candidature est gelée pour des raisons multiples. Mais finalement, je me dis, ça pousse à réfléchir sur ce que l'Europe a apporté à un pays comme ça. Qu'est-ce qu'un pays comme ça peut apporter à l'Europe, enfin à l'Union européenne? Et on s'aperçoit que c'est pas si simple que ça. Hein, c'est un pays qui est musulman très majoritairement, on va dire plus de 70%. Et malgré tout, j'ai pas vu une seule burqa, un seul voile islamique. Rien. Je veux dire, la religion là-bas est une question, j'allais dire, intime, personnelle. Il n'y a absolument pas d'affichage ou de prosélytisme. Et n'oublions pas aussi que l'albanaise la plus célèbre, c'est Mère Teresa, qui est catholique, chrétienne, enfin qui était, puisqu'elle n'est plus de ce monde maintenant.
Alors, le livre s'intitule « Repères » au pluriel, dans la collection des carnets d'Iaventure. On peut se le procurer en allant sur le site www.diaventure.fr. Alors, que voit-on en Albanie? En tout cas, des traces de l'ancien régime d'inspiration marxiste. Les monuments sont là, ils n'ont pas été détruits, les statues n'ont pas été forcément déboulonnées, comme ça a été le cas dans l'ex-Union soviétique.
Exact. Alors, ce qui m'intéressait, ce n'était pas de photographier les monuments en tant que tels, mais plutôt d'essayer de capter le rapport des gens avec leur passé, avec ce passé-là, qui est finalement assez récent. Et j'ai constaté une certaine indifférence. La pyramide qui est à Tirana, dite d'Enver Hoxha parce qu'elle a été érigée à sa gloire, maintenant est à l'abandon. C'est terre à l'aventure des jeunes. Ces monuments sont recyclés dans un but touristique, dans un but, de promotion d'un tourisme comme on peut l'avoir, comme n'importe quel monument finalement. Et ils ne sont pas rasés pour autant.
Il n'y a pas de culte.
Il n'y a pas de culte de la personnalité, enfin plus de culte. les intellectuels, parce que j'étais en contact avec un ambassadeur qui était ambassadeur à Prague à l'époque, et sa femme était concertiste à l'Orchestre National d'Albanie. Et ces gens-là ont énormément souffert, les intellectuels de cette période-là. Et néanmoins, ils ont veillé, ils ont protesté quand il s'est agi de raser ces monuments. Donc si les monuments sont encore là, c'est grâce à eux, parce que ça fait partie de leur histoire. Il faut qu'on s'en souvienne un peu, j'allais dire, peut-être comme les camps de concentration qui sont des marqueurs terribles d'une certaine histoire, mais dont il faut garder quand même la trace.
Mais est-ce à dire qu'il y aurait peut-être des nostalgiques de l'ancien régime ?
Alors effectivement, j'ai aussi discuté avec l'Albanais de la rue. Si on met de côté l'aspect politique, l'aspect répression, il me disait en quelques mots, avant la vie était quand même facile, on faisait semblant de travailler, l'État faisait semblant de nous payer, parce que tout le monde était fonctionnaire quelque part, hein. Et on avait au moins toujours, on avait un toit et du pain et du fromage. Voilà, pour eux, ce sont les valeurs, les choses importantes. Alors que dès que la dictature est tombée, mais on l'a vu aussi peut-être dans d'autres pays dits de l'Est, quand la dictature tombe, n'émerge pas une classe moyenne. Soit il y a des très riches, une minorité de très riches qui ont le sens des affaires, qui ont des réseaux, peut-être des anciens apparatchiks, et beaucoup de gens qui sont dans une précarité, mais il n'y a pas de classe moyenne qui émerge de quand la dictature tombe finalement.
Mais il y a tout de même pas mal de mendiants, à ce que j'ai pu lire.
Pas tellement de mendiants. Je pense qu'il y a beaucoup de solidarité parmi les gens, et la solidarité n'est pas, j'allais dire, identitaire. C'est-à-dire, peu importe, on peut être ami, on est musulman, on peut être ami avec un chrétien orthodoxe ou un athée. Ça, c'est... Les gens ont l'habitude de se serrer les coudes, mais c'était sans doute comme ça à l'époque aussi, quand il fallait assurer le quotidien.
Comment expliquer cette cohabitation pacifique entre ce peuple qui a des religions différentes ? Il n'y a pas un islam triomphant, écrasant?
Alors, si l'Albanie est majoritairement, on ne va pas dire islamique, mais musulmane plutôt, c'est parce qu'il y a eu une occupation de l'Empire ottoman pendant 5 siècles, qui correspond à notre Moyen-Âge. Et s'il y a une cohabitation, s'il n'y a pas de volonté d'identité, on va dire religieuse, c'est peut-être parce que déjà le régime de la dictature, le régime communiste, la religion n'avait pas le droit de citer, quoi. Il fallait surtout pas. On a vu ça aussi en URSS, voilà. Et puis peut-être aussi parce que on est quand même en Europe, et puis il y a la difficulté de vivre au quotidien, d'assurer sa subsistance, fait que ces choses-là passent à l'arrière-plan. Il n'y a pas de politique sociale qui permet, parce que c'est un pays pauvre quand même, qui n'a pas de ressources. Donc les gens ne comptent que sur eux-mêmes. Et finalement, le fait de dire « je suis musulman » ou « je suis chrétien », c'est secondaire. Hein. Il faut quand même vivre au quotidien.
Pays longtemps fermé, vous avez pu, on demande un visa, comment fait-on pour se rendre en Albanie ? Puis j'aimerais que vous expliquiez de quelle manière vous vivez dans un pays étranger. Vous n'allez pas dans les hôtels les plus élégants, les plus cossus. Y a-t-il des d'élégants hôtels en Albanie ?
Alors, en Albanie, le tourisme n'est pas développé. Le seul tourisme qu'on voit, ce sont ces énormes bateaux style Concordia, qui font une halte de quelques heures dans un port comme Durrës ou Saranda. Ça ne fait pas tourner l'économie locale. Les gens vivent sur le bateau, les touristes vivent sur le bateau, mangent sur le bateau, ils vont se promener, ils reviennent et le bateau repart ensuite. Il n'y a pas donc d'hôtel de luxe. Il y a des anciens hôtels, communiste, alors c'est très marxiste, hein. on sent vraiment à une époque, on sent pas au 21e siècle du tout, on sent plutôt dans les années 70, voilà. Et donc, comment on vit ? Alors déjà, Et il n'y a pas d'euro là-bas, hein, donc il n'y a pas besoin de visa. La carte d'identité suffit, je crois, parce que comme ils aspirent à rentrer dans l'Union européenne, les formalités sont quand même simplifiées. Mais ce qui est intéressant de dire, c'est que les gens là-bas n'ont pas l'état d'esprit de dire, voilà, il faut... Le touriste n'est pas un attrape-nigaud. Voyez, enfin, il faut vraiment... Je suis arrivé à l'aéroport, une anecdote toute simple. Je voulais changer de l'argent, donc c'est les LEC là-bas. Et le guichetier m'a dit... Donc il n'y avait qu'un seul guichet. Il faut imaginer l'aéroport, c'est plein d'herbes folles. C'est un aérodrome presque à l'aéroport international, hein, normalement. Et il m'a dit, faut pas changer de l'argent ici, le taux est trop mauvais. Allez plutôt au centre-ville. Donc ça dénote quand même un état d'esprit qui est... aux antipodes de ce qu'on rencontre dans les pays où le tourisme est fort développé.
Mais alors Laurent, pour échanger avec les Albanaises et les Albanais, vous avez utilisé quelle langue ?
Alors les Albanais, il faut savoir que beaucoup sont partis travailler à l'étranger, en Italie, en Grèce, en Allemagne, en France aussi. Donc ils sont relativement polyglottes. Il faut savoir que Enver Hoxha a fait toutes ses études à la Sorbonne, donc il était très francophile. Donc on va dire que c'est peut-être sa qualité première. Et donc j'ai eu l'occasion de parler français avec d'autres, avec des Albanais, notamment cet ambassadeur qui est réalisateur cinéaste majeur à Piero Milcani, s'appelle. Vous pourrez retrouver ça sur internet, Piero Milcani. Et donc pour eux la France, voilà, c'est quelque chose d'assez fantasmé, on a parlé de Sartre, ils ont un langage très châtié, on parlait à l'imparfait du subjonctif, c'était absolument incroyable.
Mais vous aussi Laurent, vous utilisez les imparfaits du subjonctif, on en trouve dans votre texte. Alors dénonciation aussi, au passage, il y a toujours quelques coups de griffe des réseaux sociaux. Vous n'aimez pas, on vous trouvera ni sur Twitter, ni sur Facebook. Il y a votre site d'Aventure.
Voilà, le site d'Aventure, c'est une carte de visite. Ça permet de dire qui je suis, ce que je fais. Mais après, effectivement, pour moi, les vrais réseaux sociaux, c'est rencontrer les gens, et notamment comme à Salon du Livre. On va rencontrer son public, on va échanger de façon... Oui, le contact physique est important, finalement, de savoir à qui... Parce que parler à des étrangers qu'on ne connaît pas, étrangers, virtuel, c'était plutôt le sens de ma remarque. Bon, voilà, c'est quand même très limité.
Alors pour conclure, vous écrivez « Le cogito ergo sum a laissé place au Facebooko ou Twitto ergo sum ».
Oui, effectivement, j'ai l'impression que beaucoup de gens de nos jours n'existent que dans la reconnaissance et le regard des autres, fut-il virtuel. Et alors ce qui est quand même important, c'est de partager ce qu'on aime faire. Bon, moi c'est la photographie, c'est l'écrit aussi, parce que la photographie est aussi une manière d'écrire, mais donc j'aime bien marier le scripto avec le visuel.
À l'instant, c'était Laurent Jeannin enregistré courant avril 2017 lors de la fête du livre d'Autun. Laurent Jeannin qui évoquait son recueil Repères consacré à 3 semaines d'un séjour en Albanie. Je vous encourage vivement à vous rendre sur le site internet de Laurent Jeannin. Il s'agit de taper via un moteur de recherche le carnet d'e-aventure Laurent Jeannin. Toute l'actualité de Laurent Jeannin. Cela vous permettra aussi d'acheter ses livres qui sont en vente sur son site, des ouvrages consacrés à des pays, je le répète, de tous les continents de la planète, Cuba, Afrique du Sud, Rio de Janeiro, l'Argentine, Israël, l'Iran, un reportage notamment consacré à la République populaire démocratique de Corée, et puis courant 2021, Laurent Jeannin devrait faire paraître un ouvrage consacré à Cuba, un ouvrage intitulé « L'ombre de Fidel » qui est le fruit d'un séjour à Cuba en 2019. Le carnet d'e-aventure pour découvrir l'actualité du photographe Laurent Jeannin, c'est sur Internet. Pour le moment, vous êtes sur Radion à bord de Wagon Livre, l'émission littéraire de votre radio locale. Nous marquons, si vous le voulez bien, une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après avec Alain Domanger pour revenir sur un fait divers absolument épouvantable du début du XXe siècle. Nous serons dans Lyon, très précisément dans le Tonnerrois, limite entre le Tonnerrois, Lyon et le département de l'Aube. Nous reviendrons sur le crime de Julie. Très bonne fin de matinée à toutes et à tous dans Wagon Livre, votre émission littéraire.
On s'est rencontrés, j'étais plutôt fragile. Les étoiles s'enlisaient dans la forme de nos yeux. J'étais bien une usée de mensonges fabuleux. Et tu m'as enlevé à des profondeurs, des creux. Mais je t'ai averti, des monstres se cachent au fond de mon cœur qui se mue en moi. Mais libre d'esprit, en secret et je prie que mon double enfin ne se libère pas. Et laisse donc tomber le soir, celui qui me fait rentrer toujours plus tard. Mais comprends enfin, je suis combustible. Je ne peux arrêter, je ne suis pas docile. Et laisse-moi tomber enfin et noyer ma peine en ce qui sera demain. Et quand minuit approche, je sens que je me transforme. La soif davantage définit mon contrôle. Affamé d'amour, avide de remords, je recherche le confort dans mes alentours. Mais je t'ai averti, des monstres se cachent au fond de mon cœur qui se mue en moi. Mais libre d'esprit, en secret je prie.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
En 2012, j'avais l'occasion de m'entretenir avec Alain Domanget qui signait un ouvrage aux éditions de Boré intitulé « Les grandes affaires criminelles de Lyon ». Et dans cet ouvrage, Alain Domanget revenait sur une trentaine de faits criminels des 19e et 20e siècles qu'il a puisé, notamment par un très riche travail de recherche, dans les archives de Lyon. Alors c'est un ouvrage passionnant au carrefour de l'histoire, de la sociologie et du fait divers. Et je vous propose là de réentendre un extrait de l'entretien que j'avais enregistré avec Alain Domanget, auteur de ce livre, sur ce que l'on appelle le drame de la ferme rouge à Julie. Julie dans le Tonnerrois, à la limite de Lyon et du département de l'Aube. C'est une affaire qui date de 1910 et Alain Domanget va revenir sur cet horrible et incontournable crime de Julie et vous expliquer comment deux vachers de 14 et 16 ans, pour poursuivre leur rêve d'aller chasser en Afrique, tuèrent 5 personnes. Alain Domanget.
Alors c'est la jeunesse des criminels et également les raisons, oui, pour lesquelles ils ont commis ces crimes. Je sais que quand je travaillais aux archives à Auxerre, aux archives départementales à Auxerre, il y avait une chercheuse canadienne qui voulait venir, qui devait arriver en France et à Auxerre pour étudier ce dossier, parce que il fait partie des dossiers qui, de manière internationale, sont et voilà, est exceptionnel, vraiment. C'est un dossier exceptionnel par rapport à la jeunesse des criminels.
Alors, les deux meurtriers, Joseph Jacquiard, 16 ans, Joseph Vienny, 14 ans, là encore, des enfants qui sont suisses d'origine, dont orphelins ou de père ou de mère, et qui sont exploités dans des fermes en France.
Alors, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas de travail.
Social, voilà, c'est ça.
Voilà, il n'y avait pas de travail en Suisse, il n'y avait pas suffisamment de travail en Suisse. Donc, les Suisses envoyaient leurs enfants travailler dans des fermes françaises. C'est de cette manière que nos deux Joseph, Jacquiard et Vienny, sont venus travailler en France en tant que vachers, et on finit leur course à Julie.
Alors, ce qui est incroyable, c'est que, vous l'avez dit, Alain Demanger, c'est le point de départ du massacre de tous les membres d'une ferme, la ferme de Julie, enfin, qui était aussi un ancien château. Le point de départ, c'est une fourche cassée.
Alors, c'est une fourche cassée, mais la fourche cassée, ça a été le déclencheur. Hein. En fait, très bizarrement, ces enfants avaient été des lecteurs. Quoi. Ils ont passé toute leur enfance à lire des revues, des romans d'aventure.
Romans de chasse et de guerre. Alors, vous les citez, je me permets de les citer,
oui,
parce qu'aujourd'hui, on n'en parle plus, on ne les connaît plus. C'est des Buffalo Bill, bon, des Nick Carter, des Jordan ou des Louis Noir, des romans de Louis Noir. Je suis allé voir sur Internet, il y a beaucoup de documentation, mais j'avoue ne pas avoir lu ces livres.
À part Buffalo Bill quand j'étais enfant,
c'est tout.
Voilà.
Donc, les lectures qui empoisonnent les esprits de la jeunesse.
Eh bien, oui, et puis surtout, qui tout d'un coup, il y a le plus âgé a décidé qu'ils allaient que leur vie allait être une vie d'aventure, et ils ont décidé qu'ils allaient occuper leur vie à aller en Afrique chasser les bêtes fauves, vendre de la pacotille, comme ils disaient, aux indigènes, et gagner leur vie en faisant le récit de leurs aventures. Et donc le plus vieux a réussi à entraîner le plus jeune dans sa folie, quoi, presque, hein. Et alors ils ne vivaient plus que pour ça. Ils passaient tout leur temps plongés dans le catalogue Manu France à l'époque pour faire la liste des armes, des poignards, des fusils, des vêtements de chasse, etc., qu'ils allaient devoir s'acheter pour partir en Afrique réaliser leurs rêves.
Il est vrai que la colonisation, l'Afrique, constituait des idéaux pour la jeunesse.
Mais oui, on était en plein dedans, évidemment. Et puis voilà, ils se sont retrouvés donc chez le couple Verrières, à Julie. Et un beau jour, le plus vieux a cassé une fourche. Et ils se sont persuadés que leur patron allait leur retenir le prix de la fourche sur leur salaire. Et ils ont dit, allez, on agit tout de suite, on les vole. On va voler de l'argent chez eux, quitte à tuer, et même quitte à les tuer tous.
Alors, 5 personnes sont tuées donc au revolver. Il y a une tête fracassée à coups de hache. Il y a une jeune domestique qui aura l'artère carotide tranchée et dont le corps est jeté dans la citerne de la ferme.
Oui.
Et ce qui m'a surpris en lisant cette affaire de la ferme rouge de Julie, ça m'a rappelé un peu une affaire beaucoup plus tardive, hein, c'est 30 ans plus tard, l'affaire des sœurs Papin, dont Jean Genet a fait une pièce de théâtre, où il y a une tension sociale entre de jeunes gens exploités et des patrons. Il y a une tension sociale tout de même.
Une de vos collègues journalistes m'a dit la même chose il y a quelques jours. Et non, je dirais non. Je ne fais pas de rapprochement entre les fameuses bonnes de Genet et les deux jeunes vachers suisses de Julie. Les bonnes de Genet étaient effectivement dans ce... Il y avait une révolte sociale, on va dire, hein. Mais chez les deux enfants de Julie, c'était uniquement pour se procurer de l'argent et pour partir en Afrique.
Quoi. C'est vrai que chez Genet, il y a du dépit, ce qui n'est pas le cas de ces jeunes bachelors. C'est plus la peur d'avoir une retenue sur ses gages en raison de cette fourche cassée. Oui, finalement, ça ne tenait vraiment à pas grand-chose.
Pas grand-chose. Mais même s'il n'y avait pas eu la fourche cassée, je pense qu'il quand même, il s'était mis en tête de dévaliser les fermiers.
Alors, un domestique, on l'a dit, 5 cadavres, mais un rescapé, très jeune aussi, il s'appelle Louis Humbert, il a 16 ans, il est rescapé. Il y a aussi beaucoup d'émotions dans la manière parfois dont vous racontez ces histoires, surtout à la fin. On a l'impression tout de même que parfois l'ancien policier montre qu'il peut s'épancher un peu et que son cœur vient nous dire « Ah mon Dieu comme la tragédie peut briser une existence humaine. »
Alors, comme la tragédie... Oui.
Il y a des larmes et des sanglots, mais on est ému parfois. Vous réussissez à nous saisir.
Oui. Sauf que ce que je voudrais, alors je ne sais pas si j'y suis arrivé, c'est à vous émouvoir à la fois par la destinée de ces victimes, hein, mais également par la destinée de ces criminels. Hein. Évidemment, il faut penser aux 4 orphelins, les 4 enfants des époux Verrières, hein, qui sont restés orphelins. C'est évident, et il faut penser à eux en premier lieu. Hein. D'un autre côté, il faut aussi imaginer ce qu'a été la vie de ces 2 gamins suisses, hein, plus ou moins orphelins tous les deux, et puis comme l'a dit leur avocat, ils n'ont rien hérité de financièrement de leurs parents, mais ils ont quand même hérité de parents parfois alcooliques. Il y avait vraiment un atavisme dont ils ont été les héritiers, c'est clair.
Ce qui est aussi surprenant pour nous lecteurs en ce début de 21e siècle, c'est de constater par exemple que dans les années 1900-1910, et c'est le cas de l'affaire de Julie, des battues sont organisées. Donc il y a la police mobile de Dijon, les gendarmes, la maréchaussée et le bon peuple qui tout de même sont sur la trace des fuyards. C'est le cas des 2 Vachers, parce que le procureur le dit bien, une contrée, il parle de Julie, des environs de Julie et Tonnerre, une contrée bouleversée, presque en état de siège, des roulements de tambour, des battues organisées, les trains fouillés, les frontières gardées, car on craignait que les 2 meurtriers d'origine suisse ne tentent de retourner dans leur pays d'origine. Il y a une sorte de chasse à l'homme. Et ce n'est pas que dans l'affaire de Julie. Ça, aujourd'hui, la population ne... Au contraire, justement, on ne veut pas, me semble-t-il. Comme aux États-Unis, on voit les drames aussi de la population qui voudrait faire justice elle-même. Et la dangerosité de la foule,
oui, bien sûr,
sous couvert de l'émotion. Ouais. Et Dieu sait, on en a beaucoup parlé avec des crimes terroristes encore il y a quelques mois en France.
C'est vrai que à cette époque, la population se mettait aux ordres des gendarmes et organisait des battues armées de fusils, de bâtons, etc. Et comme vous le dites, hein, c'est pas seulement dans ce récit, hein, dans cette affaire. Hein. C'est très souvent que les choses se passaient de cette manière.
Alain Dovanger, concernant nos 2 jeunes Vachers dans l'affaire de Julie, expliquez-moi comment ils parviennent à se procurer à Ravière, auprès d'un quincaillier, ils réussissent à se procurer 2 pistolets, alors que le même jour, ils veulent acheter leur billet de train pour fuir sur Dijon, on leur refuse le billet de train. Le quincaillier leur vendra 2 revolvers, mais on leur refusera 2 billets de train. C'est surprenant, ça aussi vous le mentionnez, c'est aussi pour nous faire réagir.
Ah ben tout à fait, mais c'était une époque où effectivement on vendait des armes à des gamins de 16 ans. Il n'y avait aucun problème. Hein. On retrouve la même chose avec l'affaire Picard.
Hein. Jeune meurtrier de 16 ans.
Meurtrier
à 16 ans, condamné à 17 ans.
Mort à 17 ans, voilà. Hein. Et où lui aussi se baladait. Depuis l'âge de 14 ans, il se baladait constamment avec une arme à la ceinture. Ses patrons le savaient, il s'amusait à mettre en joue ses collègues de travail, etc. Bon, et la législation concernant les armes était effectivement, c'était très laxiste. Hein.
Un extrait d'un numéro de Wagon Livre de 2012 au cours duquel Alain Dovanger revenait sur le drame de Julie en 1910. Alain Dovanger, auteur aux éditions de Boré d'un ouvrage intitulé « Les grandes affaires criminelles de Lyon ». on marque une nouvelle pause musicale et puis juste après, nous aurons le plaisir de réentendre l'historienne Evelyne Levert, auteure du dictionnaire amoureux des reines. Nous aurons le plaisir de la réentendre, mais aussi avec elle, de réévoquer la cour, la construction du château de Versailles, le règne de Louis XIV et puis bien sûr Evelyne Levert, qui est une des grandes spécialistes françaises de cette malheureuse reine, reviendra sur Marie-Antoinette. C'est Wagon Livre sur Radio, on se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons.
Dans tous ces naufrages, notre histoire en âge n'est plus celle que l'on imagine. Le vol dessine comme on n'a pas gommé les nuages passés, des orages qui s'enracinent. Ouais, le vol dessine. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol dessine. Comme à l'ancienne adresse, l'inconnu tendresse manquait tant à notre estime, on suit le vol dessine. Enlever les gants pour embrasser d'autres cimes, suis le vol des cimes. Toucher le littoral, émouvant le sable sur les plages d'une vie divine, le vol des cimes. Mets tes mains dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes. Le vol des signes. De là-haut à l'océan, dans les miennes, on mélange nos veines, on dessine d'autres lignes, on suit le vol des signes.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Comme je l'avais annoncé juste avant la pause musicale que nous venons d'entendre, je vous propose cette fois-ci de réentendre Evelyne Levert, enregistrée courant octobre 2017 à Dijon. Evelyne Levert était venue au Club des écrivains de Bourgogne présenter son dictionnaire amoureux des reines et je lui avais demandé notamment de nous expliquer comment s'était constituée cette entité absolument incroyable qu'est la cour, l'occasion aussi de revenir sur la construction du château de Versailles. Et un petit peu plus loin dans l'entretien, Evelyne Levert évoque une reine qu'elle connaît bien, à savoir Marie-Antoinette. Tout de suite, Evelyne Levert sur Radion.
Mais déjà sous Louis XIII, quand même, la cour était restée beaucoup plus, enfin, à Paris, à Saint-Germain, parce qu'on va beaucoup à Saint-Germain, Saint-Germain-en-Laye, et puis là, il va y avoir Versailles. Mais la cour à Versailles, c'est... un peu plus de 100 ans, mais c'est tout. C'est le règne de Louis XIV, qui est un règne extrêmement long, qui s'arrête en 1715.
54 ans de règne.
54 ans de règne. Et puis, il n'est à Versailles qu'à partir des années 1680. Donc, c'est bref, parce que Versailles n'est le centre de la cour qu'à partir du moment où le roi décide de s'y installer. Et on vit dans un chantier quand le roi s'y installe. Et là, la reine... qui était Marie-Thérèse, qui était un personnage extrêmement terne, la reine est morte et c'est Madame de Maintenon, qui est une reine du silence, mais qui est à côté de Louis XIV, puisque c'est un mariage morganatique qui les a unis. Et les belles années de Versailles, on va les connaître encore à la fin du règne de Louis XIV, et puis sous le règne de Louis XV et au début du règne de Louis XVI. Mais vous voyez, ça, la cour de Versailles, c'est 100 ans seulement dans l'histoire de la cour de France.
Est-il vrai qu'à l'époque du règne du roi Soleil, il y a 5000 courtisans au château de Versailles?
Oui, qui vont et qui viennent. Il y a à peu près 5000 personnes qui sont en activité. Alors attention, il y a pas 5000 courtisans, il y a 5000 personnes. Il y a des courtisans, il y a le roi, il y a les ministres, il y a tout l'appareil politique qui est là, mais enfin, les ministres n'habitent pas forcément au château de Versailles. Et puis, il y a tout le personnel, il ne faut pas oublier. Alors, il y a les courtisans, et puis il y a tout le personnel qui s'agite, depuis le personnel des cuisines, en passant par tous les autres étages de la fonction domestique, et c'est énorme.
Alors, j'ai noté 226 appartements à Versailles, 500 chambres, mais qui sont aménagées sous les combles du château de Versailles.
Il y a de tout, ça dépend qui on est. Et alors, on est quelquefois très heureux d'avoir une mansarde dans le château de Versailles, parce que ça veut dire que vraiment, on en fait partie. Mais c'est pas confortable du tout. Quand j'ai dépouillé la correspondance intime du marquis et de la marquise de Bombelles, là nous sommes sous Louis XVI, la marquise écrit à son mari qui est en mission à l'étranger, elle lui écrit que elle fait cuire la soupe auprès de la cheminée. Vous voyez, c'est donc très, ça peut être très très modeste, mais on est très fiers d'avoir une sorte de petit Galta à la cour de Versailles, alors qu'on pourrait on pourrait vivre très confortablement dans un hôtel. Et ces gens-là ont souvent, toujours, même on peut dire, un hôtel particulier, soit à Paris, soit à Versailles même. Mais avoir un pied-à-terre à Versailles, c'est magnifique. Alors, évidemment, vous avez les appartements princiers. Vous n'avez pas que les appartements du roi et de la reine. Il y a aussi les appartements princiers. Il y a des appartements pour certains ministres, etc., etc.
Alors, arrêtons-nous, puisque vous êtes la biographe de Marie-Antoinette. Il faut s'arrêter sur Marie-Antoinette. Parce qu'il me semble qu'il y a une émotion en France autour de Marie-Antoinette parce qu'elle a été victime de la Révolution française, parce qu'elle a été guillotinée quelques mois après son mari Louis XVI, Capet, comme on l'appelait en cette époque révolutionnaire troublée tout de même.
Oui, mais alors Marie-Antoinette, si vous voulez, est entrée dans la légende à partir du moment où elle a franchi les marches de l'échafaud. Marie-Antoinette, c'est la reine guillotinée, c'est une tête sanglante qu'on a jetée aux Français. C'est ça, Marie-Antoinette. Si Marie-Antoinette était morte en accouchant de son dernier enfant à Versailles, on l'aurait oubliée. Et il n'y aurait pas cette Marie-Antoinette au mania que l'on voit ressurgir très, très régulièrement. Vous savez, c'est très étrange. Marie-Antoinette reste un personnage qui est un personnage qui attire ou bien un amour démesuré ou bien la détestation, les deux. Mais je dirais qu'elle émeut les cœurs sensibles en raison de ce destin qui est un destin hors du commun. C'est une femme qui est à la fois une femme sensible, une femme frivole et une femme tragique. Elle a vécu une des plus grandes tragédies de l'histoire.
Alors au début, Elle a 18 ans, je crois, lorsqu'elle est présentée à Louis XVI.
Oh, écoutez, c'est un mariage comme tous les mariages
arrangé
souverains. C'est un mariage politique. Elle est là, elle est le gage d'une alliance entre deux États, l'Autriche et la France, qui étaient ennemis depuis des décennies. Alors, elle concrétise cette alliance et sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, lui donne des conseils et elle lui dit en fait qu'elle doit essayer de dominer son mari pour faire prévaloir les intérêts de la maison d'Autriche. C'est très clair. Moi, j'ai publié toute la correspondance de Marie-Antoinette et de sa mère ainsi que de ses autres correspondants. Marie-Antoinette, elle est là pour satisfaire les intérêts de sa mère. Marie-Antoinette, lorsqu'elle arrive en France, elle a 15 ans. Elle épouse donc un jeune homme, ils ont un an d'écart, elle a 14 ans et demi et lui a 15 ans et demi, et elle trouve un jeune homme qui ne la séduit pas. Il n'est pas très séduisant, c'est un garçon qui est complexé, et ils mettront 7 ans à consommer leur mariage. Et ils ont la malchance de régner trop tôt. Ils montent sur le trône en 1774. Louis XVI monte sur le trône, donc elle devient reine. Elle a 19 ans et lui a 20 ans. Il a d'excellentes idées, il a de bonnes intentions pour gouverner la France. Bon, et il gouverne avec ses ministres. Quant à la reine, ben justement, elle ne sait pas quel rôle vraiment elle doit adopter. Et il n'y a personne pour la conseiller, sinon sa mère, qui lui envoie des lettres très régulières depuis Vienne. Et ces lettres vont toujours dans le même sens. Dominez votre mari et tâchez d'obtenir telle et telle chose pour nous. Vous voyez, c'est cela. C'est cela. Bon. Alors, elle va se noyer dans un tourbillon de plaisir. Une reine de 20 ans, que voulez-vous, sa couturière, les fêtes, et elle fuit son époux. Elle fuit son époux, il va falloir que son frère, l'empereur Joseph II, vienne remettre de l'ordre dans le ménage et lui dire qu'il faut qu'elle couche avec son mari et qu'elle donne des héritiers au trône. Et là, finalement, ils vont y arriver. Mais elle a très vite la réputation d'une femme frivole, légère, dépensière. Et puis, elle prendra ostensiblement le parti de son pays d'origine, c'est-à-dire le parti de l'Autriche. Et là va venir l'expression affreuse d'autrichienne. On disait toujours d'une princesse, ça c'était l'italienne, c'était ceci, cela. Et là, on disait un peu l'autrichienne. Mais là, ce qualificatif d'autrichienne va devenir quelque chose de terrifiant. Et ça va la clouer véritablement au mur du palais, on peut dire. Et il y a un scandale qui éclate en 1785, c'est le scandale de l'affaire du collier, elle est innocente, mais enfin, elle passe à ce moment-là, son image est fixée à tout jamais. Et lorsqu'éclate la Révolution, malgré elle, elle va jouer un rôle politique, et ce rôle politique, comme elle n'a aucune expérience dans ce domaine, ce rôle politique va être un rôle de conservateur. Et elle dira toujours à son époux de ne céder en rien à la volonté de ceux qui veulent le changement. Et ça va conduire, enfin, ils vont être conduits, à la suite d'un certain nombre d'événements dramatiques, ils vont être conduits à la chute de la monarchie. Et ils auront tous les deux une fin horrible, puisqu'ils montent l'un et l'autre à 9 mois d'écart sur l'échafaud. Et avec une dignité et un courage exceptionnel. Donc vous voyez, c'est une image très, très complexe. Et ce qu'on peut dire de Marie-Antoinette, c'est que c'est une femme miroir. Et il y a différentes images de Marie-Antoinette qui apparaissent suivant les époques. Sous la Restauration au XIXe siècle, ça a été la reine martyre, bon, détestée par les républicains certes, mais c'est l'image de la reine martyre. Et puis aujourd'hui, eh bien, c'est devenu... Alors il y a eu quantité d'autres images qui se sont superposées. Et aujourd'hui, nous sommes dans une période où, justement, il y a une surenchère de la frivolité. Eh bien, qu'est-ce qui plaît chez Marie-Antoinette? C'est plus du tout la reine martyre. Ce qui correspond à notre époque, c'est on vit dans l'instant la frivolité et on voit, eh bien, une reine qui a voulu s'amuser. Et c'était le cas avec le film de Sofia Coppola.
Dont vous avez été la conseillère historique.
Oui, conseillère pas écoutée, je vous dis tout de suite.
C'était l'historienne Evelyne Levert que vous venez d'entendre à l'instant. Je l'avais donc rencontrée courant octobre 2017 à Dijon, alors qu'elle était l'invitée du Club des écrivains de Bourgogne. Evelyne Levert y était venue présenter son dictionnaire amoureux des reines, toujours disponible en librairie aux éditions Plon. Dernière pause musicale de notre émission, et puis viendra le moment de conclure et de nous dire au revoir. On se retrouve dans une poignée de minutes. Split the ocean, grab my hand.
D'urgence, mais j'atterris pas. Et plus j'y pense, plus je plane, ne suis plus moi. Viens me chercher, je suis pas normal. Quand on aime, on ne compte pas les heures d'escale. Pas de panique. Toi tu hésites, je me passionne pour ton cœur qui gravite et qui tâtonne. C'est fou comme les heures font que l'on revient.
Si t'es ok, je suis raisonnable.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Notre émission touche à sa fin. Merci d'avoir été en notre compagnie en cette fin de matinée sur Radion. On se retrouve bien évidemment dans une semaine, toujours à 11h, même fréquence, ou sur le www.radion.fr. Merci de votre écoute et de votre fidélité. Si vous avez manqué le début de cette émission, vous la retrouvez aisément via Internet sur le site d'archives www.yannickpetit.fr, et puis vous retrouvez également sur le site d'archives toutes les références des titres, des ouvrages et auteurs que vous avez pu entendre et redécouvrir aujourd'hui. Merci encore, excellent congé de fin de semaine, au revoir et à samedi prochain.